Donc hier, messieurs, donc c'était Rosh Chodesh Elul. D'accord, Rosh Chodesh Elul, c'est un mois très particulier. C'est un mois où toute l'année on l'attend. On raconte que Rabbi Israël Salanter, quand on annonçait que le Shabbat avant Rosh Chodesh, c'est Shabbat Mevarechim, où là-bas on va proclamer la venue du prochain mois. Alors à peine on disait que bon, on proclamait que le mois de Elul allait arriver, Rabbi Israël Salanter, il s'évanouissait. Les gens dans la synagogue, ils commençaient à hurler, à pleurer en sanglots. Tellement que ce mois-là, ça exprimait chez eux un moment fort. Et c'est un moment qui est très très fort. C'est un mois entier qui est réservé à la Teshuvah. D'accord ? Bon, il y a certains qui disent, oh là, le mois de Elul, oh, c'est une tannée, ça, on va devoir se lever pour les slichot, on va encore devoir faire Teshuvah, chaque fois faire Teshuvah, sans devoir faire Teshuvah. Bon, c'est dommage d'avoir cette réaction. Au contraire, le mois de Elul, c'est un mois de proximité avec Hachem extraordinaire. C'est un mois de bonté, un mois d'amour, un mois, un cadeau extraordinaire qu'Hachem nous fait. Et c'est ce qu'il disait aussi Rav Yitzhak Blazer. Il dit, le premier sentiment qu'on doit avoir lorsqu'arrive le mois de Elul, c'est un sentiment de reconnaissance. De remercier Hachem de nous avoir fait un cadeau pareil. De ne pas voir cette période comme une période triste de tension. Au contraire, c'est une période de joie. C'est une période, ah, waouh, Hachem, on m'a donné enfin la possibilité de me rattraper. C'est comme un enfant, il a fait des bêtises à l'école. D'accord ? Alors, le prof il lui dit, écoute, voilà, je te laisse quelques jours pour te rattraper. Montre-moi que tu es un garçon bien et tu pourras continuer dans la classe. Qu'est-ce qu'il va faire le garçon ? Il ne va pas voir cette période-là comme une période négative. Au contraire, oh, Hachem, maintenant je peux me rattraper, je peux montrer qui je suis. Je peux montrer que je suis bien. Donc c'est ce sentiment-là qu'on doit véhiculer pendant tout le mois de Elul. D'accord, alors on a parlé c'est un mois de Teshuvah. Pourquoi est-ce qu'on doit faire Teshuvah ? Ça sert à quoi de faire Teshuvah ? D'accord, bon, il y a beaucoup à parler sur la Teshuvah en soi. Mais avant de commencer, rapportons ce que disait Rabbi Yerucham de Mir. Rabbi Yerucham, c'était donc le Mashgiach de l'Yeshiva de Mir. C'était un des plus grands personnages de ce siècle. C'est un Mashgiach qui connaissait la profondeur de chacun de ses élèves. Il connaissait toute la Torah en tous les sens. C'était quelqu'un de très profond. Donc comme on le dit tout le temps, c'est pas important de savoir qu'est-ce qu'il dit, mais c'est important de savoir qui le dit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si une personne simple, on va dire, vous prenez un épicier ou un vendeur de falafel qui va vous en lancer une parole philosophique, alors faut pas s'attendre à beaucoup de profondeur. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de sa situation, on comprend que ce qu'il a dit, c'est par rapport à ce qu'il est. Pas très profond. Par contre, si c'est quelqu'un de grand qui vous dit quelque chose, alors là, il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup de profondeur, beaucoup de grandes choses dans ce qu'il dit, même si ça paraît simple. C'est ça que lorsque les Gdolim disent quelque chose, quand les grands rabbinim disent quelque chose, on peut prendre toutes ces choses-là comme argent comptant. C'est comme si que Hachem parlait directement. Donc Rabbi Yerucham, il dit que la nature, par nature, la nature et toutes les choses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, ont besoin d'entretien. Si vous prenez un vélo, prenez un engrenage, si l'engrenage on l'entretient pas, si on met pas un peu d'huile de temps en temps, si on fait pas tourner, alors avec le temps forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Il va rouiller, il va se gripper, l'huile va vieillir, etc. Et ça marche pas très bien. Donc une voiture, on a besoin tous les 10, 15, 20 000 km de changer l'huile, de changer l'eau, etc. etc. Elle a besoin d'entretien, tout a besoin d'entretien. N'importe quel objet, des objets plus, des objets moins. Une table, on a besoin d'entretenir une fois de temps en temps. Si on l'entretient pas, alors elle va s'abîmer, la poussière, etc., etc. D'accord ? Si c'est vrai pour le matériel, c'est d'autant plus vrai pour le spirituel. On voit, il y a un passou qui nous dit « Amechadesh betuvo bechol yom tamin ma'ase bereshit ». On voit que Akadosh Baruch Hu lui-même, chaque jour, il renouvelle sa création. C'est-à-dire que Hachem, chaque jour, il prend le temps de renouveler, de régénérer, d'entretenir la création. La création, le monde, a besoin sans arrêt d'être régénéré. Nous, on ne le voit pas forcément, mais apparemment, comme ça, Hachem, c'est ce qu'il fait. Peut-être qu'il redonne un coup à la terre pour qu'elle fasse encore quelques tours, il met un petit peu de gaz dans le soleil pour qu'il continue à brûler, etc. etc. En tout cas, enfin, l'exemple, il est rigolo, mais c'est pas... Il y a marqué « Amechadesh betuvo bechol yom ma'aseh bereshit ». C'est quoi le balai que Hachem utilise pour nettoyer le monde ? Betuvo. C'est quoi tuvo? Sa bonté. Ça veut dire que chaque jour... Enfin, c'est pas ce qu'il dit en réalité Rabbi Rucham. Dans les mots, quand on lit là-bas le passage, c'est pas ce qu'on comprend. Enfin, on comprend pas exactement ce qu'il dit. On peut dire que ça, que ça veut dire que chaque jour, Hachem, il déverse dans le monde un flux de bonté. Sans cette bonté, le monde ne pourrait pas tenir. Non, si cette règle, elle est vraie, donc pour le matériel, pour l'univers, elle est d'autant plus vraie, encore plus, pour notre nefesh, pour notre âme. D'accord ? Comme vous savez, l'homme, il a plusieurs parties de la neshama, elle est coupée en trois parties. La partie du mais, c'est le roar, le nefesh. Ce nefesh-là, c'est notre âme. C'est quoi notre âme ? C'est notre volonté, c'est ce qui nous aide à vivre. Il y a la nefesh abemi, ça veut dire l'âme qui nous fait marcher notre corps, d'accord, l'envie de dormir, l'envie de manger, etc. C'est l'âme qui nous sert à faire marcher le corps de façon naturelle. Il y a l'âme en soi, la neshama, qui est une partie qui est liée avec Hachem, qu'on n'a pas accès. Et il y a entre les deux, on appelle le roar. Le roar, c'est notre volonté, c'est nous. Maintenant, ce nous-là, aussi, il a besoin d'entretien. Et là, j'ai rapporté le Kuzari. Le Kuzari, il dit que... Alors, je vous dis le langage du Kuzari en hébreu, parce que le langage, il est matok. Il dit, pourquoi est-ce que Hachem, il a... Enfin, Hachem, pourquoi est-ce que Chazal ont instauré, pourquoi Chachamim ont instauré, que trois fois par jour, on doit prier. Pourquoi ? Alors, on nous dit comme ça le Kuzari. Ar bechad et tefila meter adam et nafsho, mikol ma she'avar alea benatahim, ou mechin ota likrat atid. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous explique que... Alors, on va commencer par la nuit. La nuit, on s'est réveillé. Et donc, en dormant, notre neshama, elle s'est un petit peu empoussiérée, elle s'est un peu engourdie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vient le matin, on fait la tefila. À quoi sert cette tefila ? Justement, à réveiller notre neshama, à nous réveiller, à lustrer un petit peu notre moi. Seulement, on va partir, donc chacun il va partir dans ses activités, et tout au long de la journée, il va accumuler encore quelques petites crasses, quelques petites saletés, quelques petites poussières. D'accord ? Ici, il a vu quelque chose de pas bien, là, il a entendu quelque chose de pas bien, il a dit quelque chose de pas bien, etc. etc. Donc, arrive Mincha, hop, il remet un petit coup de nettoyage. Seulement, jusqu'au soir, il y a encore beaucoup d'aventures, et c'est pour ça que la prière du soir, encore une fois, elle vient régénérer notre âme pour qu'on puisse partir dormir proprement. D'accord ? Donc, nous dit le Kuzari que la tefila, elle vient nous aider chaque jour à nettoyer un petit peu notre âme. Seulement, continue, il dit, mais c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines poussières qu'on accumule tout au long de la semaine, mais que la prière, elle pourrait peut-être les nettoyer, mais elle ne les nettoie pas. Arrive le Shabbat. Là-bas, Shabbat, c'est encore un autre balai, une autre brosse qui va venir nous aider encore nettoyer notre âme de certaines impuretés qu'on a accumulées pendant toute la semaine. Pendant toute la semaine, alors on était tout feu tout flamme, on travaillait, bon, on a oublié plein de choses, on ne faisait pas attention à plein de choses. Arrive le Shabbat où là, on met le pied sur le frein, on s'arrête, on se fait beau, on se fait propre, on s'assoit en famille, on mange, on est saméa, on se régénère. Donc nous dit le Kuzari, le Shabbat, il a justement là encore une fois la force de nettoyer notre âme de certaines impuretés qu'on a accumulées pendant toute la semaine. Ouais, vous êtes avec moi aujourd'hui, tout le monde est en train de dormir là. Ouais, vous écoutez, ça va ? D'accord. Et dit de la même façon, les fêtes. Chaque fête, elle a aussi son pouvoir purificateur. Elle va aussi nettoyer encore notre âme. Vous savez que chaque fête, en réalité, elle a un message. Pour prendre un exemple, on peut prendre plusieurs exemples, un exemple. La fête de Pessah, elle a, bon, mis à part que la fête de Pessah, c'est une fête familiale où là on va tous se retrouver à la table du Seder, on va manger la galette, on va boire le vin, on va chanter, on va dire la Haggadah, on va manger le Msouki, etc. Mis à part tout ça, la fête, enfin, le Chol HaMoed, tout ça c'est très important, tout ce qu'on fait. Ça nous aide justement à retrouver un petit peu d'équilibre dans la famille. Mais mis à part ça, pour celui qui se prête à ça, à réfléchir à la ma'out, à l'essence de Pessah, alors Pessah, il a la force encore de le nettoyer, de régénérer la émouna du juif. Pourquoi ? Parce que Pessah, c'est la fête de la émouna. La galette qu'on mange, la matzah, c'est le pain de la émouna. Alors quand est-ce qu'on va réfléchir à tout ce que Hachem a fait au peuple juif pendant toute cette période de Pessah, tous les miracles qu'il a fait. Alors tout ça, ça a la force de nous de régénérer notre émouna. Donc on voit que la fête de Pessah, c'est un balai pour nettoyer et pour renforcer la émouna du juif. Chaque fête, elle a son message. Pour donner un autre exemple, quelle fête vous voulez, messieurs ? Soukot. Soukot, le message de Soukot, il y a 1 milliard de messages. Hein. C'est pas quand je dis un message. Soukot, l'homme, il a tendance à croire que la nature fonctionne de façon naturelle. C'est un... Comment il s'appelait, celui, le philosophe qui disait...
Aristote.
Non, un autre... Il disait des vérités comme ça. On croit que la nature fonctionne de façon naturelle. Viens la fête de Soukot, nous dit pas du tout. Qu'est-ce que tu crois ? C'est parce que tu manges que tu es nourri, parce que tu as un toit sous la tête, alors que la pluie ne tombe pas dans ta maison ? Pas du tout. Pas du tout. On voit qu'à Soukot, qu'est-ce qu'on fête ? On fête que le Ram Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, donc il est arrivé dans le désert, et Hachem, pour nous protéger, de quoi nous a entouré ? Des Anané Kavod. C'est quoi Anané Kavod ? C'est des nuées de gloire. À quoi servaient ces nuées de gloire ? À quoi ça servait ? Ça servait à aplanir le chemin. Mais mis à part ça, ça nous protégeait de nos ennemis, ça nous protégeait du soleil, de la pluie. Lorsque le Midrash y raconte, lorsque les Égyptiens y lançaient des flèches sur la Nekavod, alors ça rebondissait, ça retombait sur eux. D'accord ? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner, Soukot ? Ça vient nous enseigner qu'en réalité, toute la matière en soi, elle n'a aucun pouvoir, elle n'a aucune force, si ce n'est la parole d'Hachem. D'où on voit ça. On voit que Hachem, pour nous protéger, comme on l'a dit, il a utilisé des Anané Kavod. C'est quoi Anané Kavod ? C'est des nuées de... Des nuées. C'est quoi les nuées ? C'est quoi la nuée ? Comment on fait la nuée ? La nuée, un nuage. C'est quelque chose de matériel, une nuée. Mais c'est, on va dire, la matière la moins résistante qui puisse exister. D'accord ? Prenez même un papier de cigarette, une fourmi ou une mouche ne peut pas traverser. Par contre, une nuée, même une mouche, elle peut traverser la nuée. Pourquoi est-ce que Hachem, pour nous protéger dans le désert, il a utilisé des nuées ? Pourquoi il n'a pas utilisé autre chose ? On aurait eu peur des grandes plaques de fer autour de nous.
La vision, pourquoi... elle ne passe pas à travers.
Hein ?
La vision, elle ne passe pas à travers. Avec un rien, il peut te défendre.
Oh, exactement. Pour nous dire qu'en réalité, la matière en soi n'a aucune force, si ce n'est la parole d'Hachem. Et c'est ce qu'on fait à Soukot. On vient se renforcer sur ce point-là. Encore une fois, ce n'est pas que ce point-là. Il y a 1 million de messages. Chaque fête, elle a son message. Chaque fête, elle a... Bien sûr, il faut prendre le temps d'étudier les choses, de s'asseoir et de comprendre. Pas d'être simplement des acteurs dans la fête. On a traversé Pessah. Alors, c'était comment Pessah ? Ah, ben, le premier jour, on a eu mal au ventre avec les galettes. Mais bon, on a bien rigolé. On a bu beaucoup de vin. C'était sympa. On dénigre pas. C'est très bien. C'est, ça fait partie de la fête. Hachem, il veut qu'on soit sa mère pendant la fête. Mais bon, c'est dommage de passer à travers, quoi. Il y a beaucoup de choses à vivre dans toutes ces... Maintenant... alors, de quoi on doit se nettoyer ? De quoi on doit se nettoyer ? Alors, tout au long de l'année, on a dit qu'on a, on s'est détérioré. Il faut savoir que la détérioration, elle n'est pas seulement au niveau de l'individu. Elle est aussi au niveau du klal, mais pas seulement du klal de notre génération, mais de toutes les générations précédentes. Ça veut dire quoi ? Que tout au long de l'histoire, l'homme, il s'est éloigné de son créateur. D'accord ? Le monde moderne parle d'évolution. Nous, on parle de dévolution. Enfin, ça se dit en dévolution ? Non, de régression. D'accord ? Le contraire. Vous connaissez l'histoire ? Ça n'a rien à voir, mais je vous raconte quand même, elle est marrante. Il y a un jour, il y a un homme, il était dans un Haver Knesset, un député, il était dans un avion. Il était assis à côté d'un rave. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que toutes les 2 minutes, le fils du rave, il lui dit « Papa, t'as besoin de quelque chose ? Papa, tu veux boire ? Papa, tu es fatigué ? Tu veux une couverture ? T'as froid ? T'as chaud ? » Alors, à la fin, Haver Knesset est retourné vers le rave. Il dit « Mais je comprends pas, mais je vois que ton fils, comment il s'occupe de toi ? Comment il se... » Il dit, moi, mon fils, la seule chose qu'il veut, c'est papa, donne-moi les clés de la voiture, papa, donne-moi de l'argent, papa, machin, et plus il s'éloigne de moi, et mieux c'est. Il dit, pourquoi ? Il dit, ben, c'est tout à fait normal. Il dit, que, pourquoi ? Il dit, nous, on dit qu'on vient de Adam Rishon. Donc, mon fils, en me servant, en s'occupant de moi, hein, il essaie de se rapprocher de Adam Rishon. Mais vous, vous dites que vous descendez du singe. Donc, ton fils, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de s'éloigner du singe. Donc il y a l'évolution et la dévolution. Nous, on ne dit pas qu'on va en progressant, Au contraire, malheureusement, le monde, il va en régression. Il y a une autre histoire, vous la connaissez? Après, je l'ai déjà racontée. Vous la connaissez? Non, une fois, il y a un jour, un petit garçon, il demande à sa maman, il dit, dis-moi, d'où vient l'homme? Il dit, d'où vient l'homme? Il vient d'Adam Arishon, Hachem, il a créé l'homme et tout, Adam Arishon. Et le fils dit, je comprends parce que j'ai demandé à papa, il m'a pas dit ça. Papa, il m'a dit qu'on descend du singe, pas de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il répond à la mère? Il dit, non, ça c'est pour sa famille, ça c'est pour ma famille. C'est une blague, hein, c'est pas une vraie histoire. En tout cas, du coup, on sait plus ce qu'on disait. Donc, tout au long de la création, on a eu donc une régression. Tout au long de la création, on a commencé à accumuler toutes sortes de bêtises et toutes sortes de philosophies. Et toute cette saleté-là, on les a accumulées. Ici, le Chovot HaLevavot, je ne pourrais pas vous le répéter tout entier, mais le Chovot HaLevavot, dans Shaar HaPrishut là-bas, il fait un petit peu la description de ce qu'était le monde et ce qui est devenu le monde. À l'origine, c'était un homme pieux, un homme qui recherchait de s'approcher de son créateur, qui cherchait à faire le bien, etc., etc. Tout au long des générations, alors le Yetzer Hara, il a commencé à se mêler. Il a rentré dans la tête des gens toutes sortes de bêtises, toutes sortes de... Et on voit le résultat, il est ce qu'il est aujourd'hui. Où les gens ont commencé à se battre, à faire la guerre, ils ont commencé à rechercher les honneurs, rechercher l'argent, etc., etc., etc. Donc au fur et à mesure de l'histoire, l'homme est devenu égoïste, est devenu mauvais, etc., etc. Donc toute cette accumulation, en réalité, vous allez me dire, mais aujourd'hui, on voit pas ça. On voit qu'il y a des gens qui sont philosophes, des gens très intelligents, des gens qui veulent le bien, qui recherchent le bien. Certainement qu'il y en a, Baruch HaShem, heureusement que le monde, il y a encore des gens bien. Mais la plupart des gens, ils ne courent pas à faire le bien. On trouve pas beaucoup de médecins sans frontières, d'accord? Il y a beaucoup de brokers sans frontières à New York, plus que de médecins sans frontières. C'est-à-dire que le monde, il ne recherche pas dans son essence à faire le bien. Et il court à travers toutes sortes de futilités. Donc ça, c'est cette crasse-là, on l'a accumulée pendant des générations et des générations. Ça, c'est par rapport à l'histoire. Par rapport au klal aussi, on vit dans une ambiance... Enfin, chacun dans l'ambiance dans laquelle il vit. Mais l'ambiance dans laquelle on vit, dans la chrénoute, comment on dit la chrénoute, le voisinage, il a aussi tendance à nous encrasser. D'accord ? Lorsqu'on voit les gens faire des choses, alors quand c'est des choses bien, bon, c'est vrai qu'on a envie de les faire, mais surtout on est attiré vers le mal. Quand je dis attiré vers le mal, c'est pas qu'on est des gens mauvais, mais naturellement, l'homme, il est paresseux. Et donc, lorsqu'il voit l'homme réussir, faire la facilité, etc., c'est vers ça qu'il est attiré. D'accord ? On voit plus des gens qui sont attirés à se battre pour aller acheter une grosse Mercedes que des gens aller faire de la itnatvout, d'aller faire des volontaires en Afrique. D'accord ? Parce que l'homme, de façon naturelle, il est attiré vers la terre. Donc toute cette influence-là, elle nous encrasse aussi. Elle nous encrasse. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, sans arrêt d'un nettoyage. Et le mois de Elul, c'est un mois de Teshuvah, que justement ce mois-là, il vient nous aider à essayer de nettoyer une partie de notre neshama, essayer de comprendre, de voir la conscience, d'améliorer la proximité qu'on a avec son créateur. Parce que au fur et à mesure de l'année, plus on fait des averot et plus on s'éloigne de son créateur. Vient le mois de Elul, te dis stop, maintenant t'arrêtes la descente et là tu te rebranches à ton créateur, tu te rebranches à la source. Ça veut dire que t'as sauté 50 ou 100 crans depuis Adam Arishon, tu vas essayer de maintenant monter quelques échelons et te rapprocher d'un peu Adam Arishon, te rapprocher vers le vrai message de la vie. D'accord ? Comme les idées sont fausses, je vous raconte une petite histoire, donc elle est pas petite, elle est grande. C'est une fameuse histoire qu'on a racontée des dizaines de fois, d'ailleurs on a fait dormir les gens. Ils dorment là-bas ? Jérémy ? Ah, c'est pour lui que je raconte l'histoire. Bon, c'est une histoire qui est connue, vous la connaissez, mais c'est pas grave, je la raconte quand même. Elle est sympa. On raconte qu'il y avait un jour un père de famille qui était très pauvre. Très très pauvre, il était plein de galères, il n'arrivait pas à s'en sortir, il avait plein d'enfants. Et un jour sa femme, elle n'en pouvait plus, elle dit ça y est, die. Maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. On peut plus vivre comme ça, on peut plus vivre dans la misère. Il faut que tu fasses quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux aller travailler pour gagner 4000 shekels, ça ne va pas suffire. Il faut un miracle, il faut que je trouve un trésor pour que je m'en sorte. Et là, il dit un trésor, et là, il se rappelle de quelque chose. Il se rappelle de quoi? Que son grand-père, avant de mourir, lui avait parlé d'une certaine île au trésor. Il y avait quelque part, vous la connaissez? quelque part au fin fond du monde, là-bas, une île au trésor. Et il racontait à son grand-père qu'il avait reçu de son grand-père, une carte indiquant la situation géographique précise de cette île au trésor.
Peut-être que le trésor, c'est un livre. Ça se trouve, il ne savait pas lire à l'époque.
Et peut-être. En tout cas, il se rappelle que son grand-père, avant de mourir, il avait laissé toutes sortes d'affaires. Ils avaient pris ses affaires, ils avaient mis dans le grenier. Il y avait quoi dans cette grosse malle? Une grosse malle comme ça en noir. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette malle? Qu'est-ce qu'il fait? Les enfants venaient, ils prennent la torche, ils vont dans le grenier, ils poussent plein de toiles d'araignée, et là, ils voient une grosse malle sur un gros tapis dessus, ils enlèvent le tapis, ils voient en effet la grosse malle. Il y avait un vieux cadenas, il met un coup de burin, il ouvre, et il trouve toutes sortes d'objets, une boussole. Ouais, pourquoi mon grand-père avait une boussole? Je sais pas. Une longue vue. Et il voit un rouleau comme ça, jauni. Il dit, qu'est-ce que c'est? Je l'ouvre? Non, je ne l'ouvrais pas. Oui, je l'ouvre. Et il ouvre, et qu'est-ce qu'il voit? Une carte. Et au milieu de cette carte, un X rouge. C'est ça, c'est l'île au trésor. Et là, il est heureux, ça y est, nous sommes riches, l'île au trésor. Les enfants descendent, maman, papa a trouvé la carte de l'île au trésor. Il dit, c'est quoi, mais c'était pas une blague? Non, regarde, c'est une vraie. Il a même la longue vue, la boussole. Il dit, sans attendre, j'y vais. Demain, je partirai. Donc, il fait ses valises. Et il prend le nécessaire, pas grand chose, et il se rend donc, il prend le bus. En bus, il arrive à l'aéroport, il arrive à négocier un petit billet d'avion dans un vieux avion avec une seule aile comme ça. Mais bon, malgré tout, il le prend et il voyage dans un pays. Là-bas, il prend un train, après un autre bus et un autre train, et il marche à pied. Et au bout de 3 mois, il arrive au fin fond du monde où il n'y a plus rien. Il dit, mais il faut que je continue, comment je fais? Mais dans la mer, comment je fais? Il demande à un indigène, il dit, moi, comment on fait pour arriver là-bas? Il voit ça, il dit, non, mais je sais pas, personne n'a jamais été là-bas. Il dit, comment je peux faire? Il dit, t'as qu'à louer une barque et aller en barque. Il dit, j'hésite pas. Il loue une barque et il commence à ramer, et il rame. Tu la connais ou pas? Tu la connais pas? Ah, c'est un classique. Et il rame pendant des jours et des jours, et la tempête et le froid, et malgré tout, il continue à ramer. Et à un moment, il voit au loin une lueur. Il dit, mais c'est quoi cette lueur? Il prend la longue vue et là il est complètement aveuglé. Mais c'est quoi cette lueur? Un soleil, qu'est-ce que c'est? Et il s'approche, il voit que l'île brille de façon non naturelle, c'est bizarre. Il s'approche et là il descend sur le rivage. Il regarde et il voit que le sable brille. Il dit, mais c'est bizarre, c'est quoi ce sable? Il met sa main et qu'est-ce que c'était le sable? Mais non, qu'il de l'or. Des diamants! Des diamants! Il voit des milliers de diamants, des millions de diamants!
Il a même pas de paquebot pour les emmener.
C'est pas grave, il a mis deux gros sacs, ça suffit, deux gros sacs, tu vis bien! Ouais. Je suis riche, Yarobi, mon Dieu! Aïe, aïe, aïe! Mon grand-père avait raison, il prend les sacs et il remplit, deux gros sacs. Et là, il est en train de remplir, ah, je suis riche, il chante, il est content, il est sa mère. Et là, tout d'un coup, il entend des ricanements. Il y a quelqu'un sur l'île, il se retourne, et là-bas il voit des petits jeunes avec des grosses baskets, avec des pics comme ça. Il regarde, il y a cet idiot là. Il est cet idiot. Je lui dis, mais comment vous me parlez vous? Il dit, là, c'est cet imbécile là qui ramasse du sable et il dit qu'il est riche. Il dit que c'est ridicule, mon ami. Il dit, quoi, je suis ridicule? Vous voyez pas des diamants? Mais ça vaut rien, mon gars, ce que tu ramasses là. T'as qu'à te prendre toute la plage si tu veux. Si vous laissez de m'embrouiller? Vous laissez d'embrouiller? Je sais pas t'embrouiller, mon ami, mais tu nous fais de la peine. T'es un mesquine, regarde. Tu ramasses du sable et tu dis que t'es riche, tu dis que t'es diamant, mais ça vaut rien du tout. Ça n'a aucune valeur ici. Vous allez pas m'embrouiller. Je sais très bien que sur cette île, il y a un trésor. Mon grand-père me l'a dit, regardez, j'ai la carte et tout. Je me suis pas trompé. Il dit, oui, c'est vrai. Ton grand-père t'a pas menti. Il y a effectivement un trésor sur cette île. Mais c'est pas ce que tu ramasses, c'est autre chose. Il dit, c'est quoi? Il dit, est-ce que tu mérites que je te le dise? Non, je rajoute, c'est pas dans l'histoire. C'est un peu de suspense. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, qu'est-ce que c'est? Des patates. Des quoi? Des patates. Des patates? Il dit, oui, c'est ça le trésor qu'il y a dans cette île. Il y a bien longtemps qu'on n'en a pas eu. On raconte que là-bas, au fin fond, je vous lis comment il le dit, hein, je vous le dis en français, on dit qu'à plusieurs journées de marche, derrière la chaîne de montagne, de l'autre côté du grand fleuve, de la déception, derrière les terres de la jalousie, les collines de la rancune, après la plaine de la fatigue inutile, on en trouve encore. Si tu en trouves, tu seras un homme heureux. J'y vais. C'est où? J'y vais. Il prend le sac, il vide le sac. Il dit, allez-y, tu vas, faut que tu marches comme ça pendant des mois, pendant des jours et des jours, tout droit, n'aie peur de rien, oublie toutes tes valeurs, tout, écrase tout ce qu'il y a écrasé, sois déterminé.
Qui rentre chez lui.
Non, pas chez lui, tout droit, il continue encore dans... Et là, il marche, il monte une montagne, il descend, il se bat avec un cobra, ça qui c'est un cobra. Et il voit des fourmis, il les écrase parce qu'ils étaient devant lui, sans aucune pitié. Il avait faim, il a égorgé une gazette. Non, c'est pour. En tout cas, à la fin, il monte en haut d'une montagne et il voit devant lui, magnifique, un champ. Non, avant ça, bien sûr, il dort un petit peu parce qu'il est fatigué. Et dans ses rêves, qu'est-ce qu'il se voit ? Il se voit devant une assiette de frites avec du ketchup et de la mayonnaise. Et enfin, Baruch HaShem, devant lui, son rêve se réalise. Devant lui, un champ de patates immense. Ah, ya Rabbi, je suis riche, ça y est. C'est fini les problèmes. Il descend, il remplit comme ça, deux gros sacs de patates, 50 kilos, il les met sur les épaules et il repart. Et pendant 2 semaines, la pluie, tout, malgré tout, il marche. Et il arrive sur la plage, il va pour annoncer au petit jeune qu'il a trouvé enfin le trésor, mais il les voit, ils sont en train de dormir. Et là, tout d'un coup, il devient égoïste. Il dit, pourquoi je partage ? Je garde tout pour moi, je n'ai rien à faire de l'autre. Il monte sur le bateau et il repart. Et là, son voyage pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin, il arrive à destination. 3 heures du matin, il tape à la porte comme ça. Sa femme descend, ouvre la porte et voit son mari mal rasé, sale comme ça. Mais d'où tu viens, que ça y est chérie, je suis riche, nous sommes riches, j'ai enfin trouvé le trésor de mon grand-père. Il dit oui, c'est mais où ça, regarde de gros sacs, on est riches, on va être heureux. Et là les enfants descendent et on va ouvrir le sac. Il ouvre le sac et une odeur, vous avez déjà mis des pommes de terre mouillées, pourries, une odeur pestilentielle, une odeur de mort, une odeur de indescriptible. Et la femme, elle sent ça. Quoi, pour m'apporter des pommes de terre pourries, t'es parti pendant 6 mois. Mais il y en a plein au marché ici. Qu'est-ce que j'ai là ? C'est pour ça que tu as ton trésor, des patates pourries. Et là, tout d'un coup, il réfléchit. Il dit, des patates pourries ? Ah. Et là, il s'évanouit. Là, il vient de comprendre la bêtise qu'il a faite. Il s'évanouit. Et là, la femme est déçue. Les enfants pleurent. Imaginez la déception. Ça en vient d'en pleurer. On est pas marrant d'histoire, en vérité. Là, c'est triste. Il pleure, tout le monde pleure. En tout cas, la femme me dit, maintenant, cette saleté qu'il a mis partout, il faut nettoyer. Elle va, elle nettoie. En nettoyant les sacs, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit au fin fond un truc qui brille. Elle gratte, elle voit. Et qu'est-ce qu'elle sort ? Un tout petit diamant. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle voit son mari, le gifle, il dit, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Hein ? Quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, le truc dans le sac, c'est quoi ? Elle dit, ça, non, ça, c'est rien, ça, c'est des diamants. Là, sur la plage, il y en avait plein, ça n'a aucune valeur. Mais il dit, quoi, ça n'a aucune valeur ? Et là, il se réveille, il réfléchit, encore une fois, il s'évanouit. Bon, on va le laisser dormir. Non, et c'est qui cet homme ? C'est qui cet homme ? Non, Bezrat Hashem, c'est pas nous. Bezrat Hashem, c'est pas nous. Toute notre vie, à quoi ? Enfin, toute notre, quand je dis notre, c'est sur certains. À quoi on court toute notre vie ?
Des choses inutiles.
Une grosse Mercedes, et après une plus grosse parce que le voisin l'a acheté une plus grosse, alors moi je peux pas rester avec l'ancienne, je vais lui acheter de nouveaux modèles, et une plus grande maison, et la meilleure viande, et le meilleur si, et sans arrêt, et une montre, et les montres comme ils les font maintenant, de plus en plus grosses. Et avant elles étaient fines, maintenant c'est des gros trucs comme ça, etc. Sans arrêt, on court après de l'inutile. On court après rien du tout. Alors vous allez me dire, attends, c'est quoi, on court après, il faut bien vivre, d'accord, on va pas manger, ça, on mange plus, on travaille plus, on vit plus. Si, on doit manger. On doit vivre, on doit travailler, c'est sûr. Mais c'est quoi l'essentiel ? Vers quoi on court ? Vers quoi on court ? La vie, elle est courte. Si quelqu'un il croit qu'il est éternel, ici, il se trompe. On n'est pas éternel. La vie, elle dure 60, 70 ans, 80 ans. D'accord ? À partir de 80 ans, ça y est, on est fatigué. On ne peut plus faire grand-chose. Le cerveau, il est fatigué. Tout est fatigué. Donc, on a quelques années. Ces quelques années-là, à quoi on doit les utiliser ? Qu'est-ce qu'on doit faire de ces années-là ? Est-ce qu'on doit continuer à courir après les patates ? À bouffer des frites et des purées. Des choses plus importantes dans la vie, des choses à accumuler dans la vie. Et ces choses-là, Akadosh Baruch Hu, il nous les met devant nous en quantité gastronomique, je dirais, pour faire un jeu de mots avec les pommes de terre. En quantité atsum. Comme a dit la Mishnah, Rabbi Chania ben Akasha Omer, Atsa Akadosh Baruch Hu, les Akot Israël, et Fichach Balaim Torah Mitzvot. Rabbi Chania ben Akasha, qu'est-ce qu'il dit ? Que Hachem, Il a voulu nous rendre méritants. C'est pour ça qu'il a multiplié le nombre de mitzvot. Les gens disent « Ah, 613 mitzvot, mais c'est trop, pourquoi pas une seule, ça suffit, pourquoi 613 ?» Il dit « Parce qu'Hachem, il a voulu te donner beaucoup, beaucoup de mérite. » D'accord ? À chaque coin de rue, il y a une mitzvah à faire, à chaque geste, à chaque pensée, à chaque truc, il y a une mitzvah à faire. Pourquoi Hachem, il a créé le monde comme ça ? Parce qu'il a envie de te donner. Les mitzvot, il y en a partout. Il suffit de se baisser et de les ramasser. Et c'est à ça qu'on doit s'efforcer de travailler durant toute sa vie. Maintenant, vous allez me dire, moi, je n'ai pas été à la yeshiva, je n'ai pas étudié la Torah, je ne sais pas étudier. Rien ne t'empêche, mon ami, d'aller écouter les cours de Torah, de lire les livres de Torah. Et si tu n'arrives pas à persévérer ou à réussir dans l'étude de Torah, il n'y a pas qu'une mitzvah, il y a aussi un million de mitzvot. Aider les gens, faire des sourires à des gens, faire du chesed, prier, il y a un million de trucs à faire. D'accord ? Si chaque chose que tu fais dans l'esprit de mitzvah, alors quand je m'en fous, il te l'accordera comme mitzvah. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut être sans arrêt en mitzvah. Il y a une histoire qu'on a écrite, bon, elle est connue. Mais il y a une dame dans un livre qui n'existe plus, mais peut-être on l'a ici, non ? Comment s'appelle le livre ? Une voix dans le silence. Vous connaissez le livre Une voix dans le silence ? C'est une famille en Russie qui a fait des mitzvot que nous, aujourd'hui, on ne fait pas. Ils ont fait des choses... Alors, ils ont construit un mikvé sous la table, ils ont donné à manger à des pauvres quand ils n'avaient pas d'argent, des trucs incroyables. En tout cas, cette dame-là, quand elle est arrivée à un certain âge, elle est venue en Eretz Israël, une russe. Et elle est très très embêtée parce qu'elle n'arrivait plus à faire de chesed. Et un jour, elle appelle sa fille, elle lui dit « Baruch HaShem, j'ai ouvert un gmar, c'est quoi, j'ai ouvert un organisme de chesed ?» Elle dit « Ah oui, qu'est-ce que tu prêtes, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « J'ai fait un gmar d'oreille. » J'ai fait un...
D'oreille.
Il dit, sa fille dit qu'il y a un gmar d'oreille. Il dit, j'habite dans une maison de personnes âgées. Et il y a malheureusement beaucoup de gens là-bas qui n'ont pas de famille ou que les enfants les ont abandonnés là-bas. Alors ils sont tristes, ils n'ont pas à qui parler. Alors moi je viens et je leur prête mon oreille. C'est-à-dire que la dame, toute sa vie, elle a voulu faire du chesed, elle a fait du chesed. Elle veut continuer à faire du chesed, des mitzvot, on peut en faire du matin au soir autant qu'on veut. Et donc c'est à ça qu'il faut s'efforcer toute sa vie de faire. D'accord, messieurs ? Continuons. Je tourne la page. D'accord. Rabbi Yaakov Galinsky, revenons par rapport à Elul, il dit que on a tendance à croire que Elul, c'est un mois de préparation à Rosh Hashanah. C'est vrai ou pas ? Il dit, c'est tout, on le dit, il dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas que ça, Elul. C'est pas seulement un mois de préparation. Le mois de Elul, c'est un mois qui a son essence en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas un mois de préparation simplement. Ce n'est pas la période où je vais travailler mes examens pour l'examen. Le travail en soi, c'est aussi un trésor. C'est aussi un trésor. Donc cette période de Elul, on ne doit pas l'utiliser simplement comme une préparation. On doit aussi la vivre. Et Rabbi Elazar Bochatzera, il dit quelque chose de très joli. Il dit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, lorsqu'on voulait se ressourcer, on voulait apprendre un petit peu de sainteté, qu'est-ce qu'on faisait ? Qu'est-ce qu'on allait ? On allait, tu dors ?
Non,
on allait au Beit HaMikdash. Pourquoi ? Parce qu'au Beit HaMikdash, il y avait la présence divine qui résidait. Là-bas, bon, quand vous lisez les Midrashim, c'est extraordinaire. Quand on partait là-bas, on voyait des miracles, des choses incroyables. Et chaque juif, il se renforçait, il prenait de la force pour le reste de l'année. En tout cas, lorsqu'un homme il a besoin de se renforcer, il allait à Yerushalayim, à Jérusalem, pour visiter un petit peu la Shrina. Et il dit, comme ça, il dit un pasouk, il dit « Dirshu Hashem Beimatso, Kerao Beyoto Karov. » Cherchez Hashem pendant qu'il est accessible, appelez-le tandis qu'il est proche. Nous dit Rabbi Elazar Bochatzera que ce verset, il fait allusion à quoi ? Il fait allusion au mois de Elul. Ouais. Cherchez Hashem pendant qu'il est accessible, c'est quoi ? C'est le mois de Elul. Et nous dit comme ça, que le mois de Elul signifie que quoi ? Que pendant le mois de Elul, la Shrina, la présence divine, elle est avec nous. Hachem, il est avec nous, recherchez-le, il est là avec nous. Et il dit, c'est pour ça qu'on comprend qu'on n'a pas de mitzvah de monter au Beit HaMikdash à Rosh Hashanah. Vous savez que Sukkot, Pessah, Shavuot, d'accord, tout le peuple montait à Jérusalem. Pourquoi Rosh Hashanah, Yom Kippour, on n'avait pas besoin de monter à Jérusalem ? Il y en a qui montaient à Jérusalem, certainement. Quand on raconte qu'à Yom Kippour, il y avait beaucoup de monde. Et pourquoi il n'y a pas de mitzvah de monter à Yom Kippour ? Il dit tout simplement parce que la Shrina Kdosha, la présence divine, elle est partout. Ça veut dire que pendant toute l'année, elle était simplement au Beit HaMikdash. Arrive le mois de Elul, elle est partout, dans le monde entier. Hachem se trouve partout, la présence divine, elle est partout. Donc partout où elle est, on n'a qu'à tendre la main et on la reçoit. Vous allez me dire... Pardon ? En hébreu ? En français ?
En français.
Cherchez Hachem pendant qu'il est accessible, appelez-le tandis qu'il est proche. C'est un verset dans Ishaïaou 55, 7. D'accord, messieurs ? Ça fait quoi s'il est partout ? Ça veut dire qu'il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche. C'est sûr que si on fait rien et pas de travail, on va pas le ressentir. Si on travaille, on va ressentir une aide divine qui est beaucoup plus grande. Je te ramène une histoire ici.
Yirmiyahou, c'est ça ?
Ishaïaou. Ici, on raconte le Rav. Qui c'est qui a raconté ça ? Le Rav Israël. Non, le Rav. Qui c'est qui a raconté ça ? Le Rav Israël Blazer. Non, pas le Rav Israël Blazer. Attendez, bougez pas, je vous raconte qui c'est ça. Non, c'est le Rav Hartfogel, il raconte quelque chose par rapport au mois de Elul. Comment on voit ça ? Il dit que le Rav Israël Salanter, il exigeait de ses élèves. Il exigeait, oui, de ses élèves. Que pendant le mois de Elul, on étudie, pendant combien de temps ? 18 heures d'affilée. Ces élèves de Rav Israël Salanter étudient pendant le mois d'Elul pendant 18 heures d'affilée.
Par jour.
Donc, qu'est-ce que nous devons faire ? Bon, celui qui est capable de le faire, qu'il le fasse. C'est pas ça qu'on dit. Non, c'est pas ça qui est intéressant dans l'histoire. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est la suite de ce qu'il dit. Il dit que les élèves de Rav Israël Salanter, c'était des grands personnages. Ça veut dire qu'après Rav Israël Salanter, il va y avoir une nouvelle génération, et cette génération-là, c'est ça les grands maîtres du Moussar. Rav Yitzhak Blazer, le Sabbat de Kelly, le Sabbat de Slobodka, des grands personnages, Shabbat de Vordok. Les plus grands personnages du Moussar, c'était ses élèves à lui. Donc on imagine que ces gens-là, ils avaient un niveau spirituel extraordinaire. Donc c'était pas des gens qui allaient batelaner. Comment on dit batelaner ?
Glander.
Ouais, glander à la caméra, ça se dit pas. Qui allaient perdre leur temps. C'est des gens qui, sans arrêt, étudiaient. Ils perdaient pas leur temps. Alors quoi, ils n'arrivaient pas à étudier 18 heures par jour pendant toute l'année ? Dis non, ils n'y arrivaient pas. C'est seulement pendant le mois de Elul qu'ils y arrivaient. Pourquoi ? Parce que dans ce mois-ci, il y avait une aide divine qui était spéciale. Il y a une aide divine qui était spéciale. D'accord ? Donc pour revenir un petit peu en arrière, c'est un mois, le mois de Elul, où on va semer des choses. On va semer. On raconte comment il s'appelle le rabbin. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle le rabbin. Le rabbin, il s'appelait Rabbi Mordechai Malkovitch. Un jour, il était avec ses chassidim, il était dans une auberge. Il a dû passer la nuit dans une auberge. Donc, il était lui avec ses chassidim. Et là, il y a un groupe de paysans qui rentrent dans l'auberge. Les paysans, ils commencent à parler, chacun avec l'autre. Et il y en a un, il dit, « Oh là là, il faut qu'on se dépêche de semer avant que les pluies arrivent. Parce que celui qui ne sème pas avant que les pluies arrivent, alors ils n'ont rien à manger. Lorsqu'arrivera, comme la cigale et la fourmi, quand arrivera l'été. » Et le Rav, il entend ça, il tremble, il dit au chassidim, vous avez entendu ce qu'il a dit ? C'est exactement la même chose. Si on ne va pas commencer à semer pendant le mois de Elul, on n'aura rien à manger pendant tout le reste de l'année. Donc c'est un mois où il faut s'efforcer de... Il ne reste pas beaucoup de temps, je crois. Je suis allongé, mais c'est pas beaucoup de temps, d'accord ? C'est un mois où il faut s'efforcer d'investir au maximum. Je voudrais dire quand même quelque chose. Dans quel état d'esprit on doit vivre ce mois-là. Alors si on parle de Teshuvah, si on parle de se rapprocher à Dieu, alors on a tendance à croire que c'est un moment où on doit faire très attention, on doit être tendu, on doit être un peu sur nos gardes. Le Rav Israël Zilberstein, il dit pas du tout, au contraire. C'est un mois de simra, c'est un mois de joie. C'est pas un mois de tension. La Teshuvah, on la fait pas dans la tension, on la fait pas dans l'angoisse, on la fait pas... La Teshuvah, c'est pas quelqu'un qui nous menace avec un fusil, si tu te fais pas ça, je te tue. Au contraire, c'est quelqu'un qui te dit que si tu fais ça, alors tu réussiras. Exactement.
Propice,
c'est quelque chose de... C'est sa mère, la tchouva, c'est quelque chose de sa mère. On doit être content de faire tchouva, on doit être content de se rapprocher de Dieu. On doit être content d'aller au slichot. C'est quelque chose de sa mère, c'est bien, c'est bon pour Hachem, Hachem a la possibilité. D'accord ? Il y a aussi un autre phénomène. Lorsqu'un homme, il a fait des fautes, arrive le mois de Elul, alors il s'angoisse. Ah là là, comme je suis un grand pécheur, je suis un rachat, je suis une pourriture, je suis. Ça aussi, arrive le mois de Elul, il faut enlever ça. D'où on voit ça ? On voit lorsque le Ram Israël a fait le Vaudor. Ils ont fait le Vaudor. Alors, ils sont rentrés dans un dikaon. Comment on dit dikaon en français ?
Dépression.
Dépression terrible. C'est foutu, on est les derniers des derniers. Hachem, il va dire à Moshe, va leur dire que je leur ai pardonné. Alors, que ça veut dire, le Rabbi Golopen explique, il dit que ça veut dire quoi, je leur ai pardonné. Il dit que le Ham Israël, à ce moment-là, il est rentré dans un, comme on a dit, dans un monde déprime. Il croyait que tout est foutu. On est dans une atmosphère de foutu, d'apocalypse, tout est fini. Vient Hachem, dit non, ça y est, c'est fini là. Il n'y a plus de l'atmosphère d'apocalypse, vous la mettez de côté. Maintenant commence une autre atmosphère, l'atmosphère de Teshuvah. C'est pas dit que vous n'allez pas devoir faire des efforts pour vous rapprocher, pour vous arranger. Vous allez faire des efforts, mais vous allez les faire dans une autre atmosphère. Une atmosphère de joie, de simcha. Une atmosphère de Teshuvah joyeuse. Par contre, une autre, encore une petite histoire pour terminer. Enfin, pas une petite histoire, il y a un verset qui est intéressant. On dit dans le Tehillim, on le dit tous les jours, Vehu Yivdeh et Israël Mikol Arvonotav. Vehu Yivdeh, c'est lui qui a franchi, qui libère Israël de toutes ses fautes. D'accord ? Il y a un verset qui dit que Hachem libère le Ham Israël de toutes ses fautes. Un truc qu'on ne comprend pas dans ce verset. Ça veut dire quoi qu'il libère de toutes ses fautes ? Quoi libère de toutes ses fautes ? Quoi libérer ? Quand le langage de libérer, on l'emploie pour qui ? Pour quelqu'un qui est en prisonnier. Donc si tu parles de liberté, ça veut dire que j'étais en prisonnier. Mais c'est quoi que la faute m'a emprisonné que toi tu viens me libérer ?
Il nous détache de la faute.
Pas il nous détache de la faute. Lorsqu'un homme il faute,
il s'éloigne.
Il y a deux choses, il y a deux phénomènes. Il y a la faute qu'il a accumulée, ça veut dire dans son compte on va rajouter un petit 1, une faute en plus. Mais une autre chose, c'est que la faute, elle a une influence négative sur la personne. Lorsqu'un homme il a fauté, alors il rentre dans un oh là là, pff, je suis un raté. Donc on va prier Hachem de nous libérer justement de l'influence de la faute. Il y a la faute et il y a son influence là. J'ai fauté pendant toute l'année, j'étais un mauvais juif. Et ben voilà, maintenant arrive une nouvelle période. Maintenant, la faute, je la laisse de côté et commence une nouvelle période. Et c'est la période de Elul. C'est pas une période où maintenant on va devoir se prendre sur la tête toutes les fautes qu'on a faites, s'étrimballer avec tristesse. C'est un moment où on doit se débarrasser de ses fautes et commencer une nouvelle page. On raconte que Rabbi Aaron de Belz, vous avez dit Rabbi Aaron de Belz, vous étiez là lorsque le rescapé d'Achoa, il a parlé. Vous vous rappelez? En tout cas, lui, il parlait d'un rabbi. C'était Rabbi Aaron de Belz. On raconte qu'un jour, à Yom Kippour, il avait la main dans sa barbe. Il a enlevé la main de sa barbe. Et qu'est-ce qu'il a trouvé dans sa main ?
Un poil.
Un poil. Apparemment, il s'était arraché un poil. Arracher un poil de barbe à Yom Kippour, c'est... un sourd, on peut pas. C'est tolèche, d'accord ?
Peut-être qu'ils sont arrivés tout seuls.
Peut-être que non. T'as mis ta main, t'as sorti un poil. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le poil, il a jeté en l'air comme ça. Il a dit une phrase en yiddish. Quoi la phrase il a dit ? Il a dit tiens et étrangle-toi avec.
À qui ?
À qui ? Alors un chassid il m'a expliqué ce que ça voulait dire. Il a dit que Rabbi Aaron il lui a dit au Yetzera, il dit crois maintenant tu crois que tu vas me rentrer dans une phase de déprime parce que j'ai quelqu'un qui a fauté Yom Kippour. Ah mince, je suis un pécheur, ah je suis foutu, c'est fini Yom Kippour. Hein, c'est Yom Kippour qui l'a arraché le. Il croit que tu vas me rentrer dans une phase de déprime parce que j'ai arraché un poids. Tiens, prends-le et étrangle-toi avec. Moi, mon Yom Kippour, je ne vais pas le gâcher à cause de ça. J'ai fauté, c'est pas bien. Ok, je mets de côté, maintenant je continue à avancer. En tout cas, messieurs, voilà, c'est ça la période de. C'est pas que ça, c'est beaucoup plus. Mais en tout cas, Elul, Anil et Dodi, Vedodili, à moi de proximité avec Hachem, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est avec moi. Est à moi. Oui, juste quoi ?
Sur quel livre ?
Sur quel livre ? Sur un nouveau livre qui vient de sortir sur les Chagim. Razakoubankro.